Si tu te tais quand on te demande rien, qu'est-ce que tu diras quand on demandera de te taire ?
Bienvenue à l'espace Claude Chabrol pour le Festival international du cinéma ethnographique Jean Rouch. Nous sommes là pour voir autrement le monde. Alors dans cette émission, nous parlerons, nous accueillerons le bistrot des ethnologues pour faire un petit retour sur le film Pêcheur de sable. Grâce à Mélanie aussi, nous irons faire un petit tour à l'expo Démo pour refuge et à la fin de notre émission, notre quiz. Alors tout de suite, on est avec Cédric de l'association Acanthe et Sam, notre languedocien préféré, pour nous parler de l'association Ethnodoc.
Bonsoir à toutes. On va commencer donc par une entrevue. C'est le format interview qui va nous intéresser d'abord. Alors, Zoé Vala, bonjour.
Bonjour.
Plavengut sur notre plateau. Cédric Touza, bienvenue. Est-ce que vous nous présentez l'association Acanthe, s'il vous
plaît ? Alors, Acanthe, c'est l'association des étudiants du Master Valorisation et Médiation des Patrimoines de l'Université Paul Valéry. C'est l'association grâce à laquelle on monte des projets et on peut valoriser le patrimoine dans le Languedoc-Roussillon.
Quelles sont les actions qu'avait Spouscut mettre en place très rare ? Quelles sont les actions que vous avez déjà faites ?
Alors, chaque année, nous avons plusieurs projets. Et pour parler de ma promo, on a travaillé aux Journées européennes du patrimoine à Latte, sur le site antique. L'année dernière, on a travaillé aussi à la promotion du festival de Montpellier Danse. Et puis chaque année, toutes les promos ont des gros projets. Et le gros projet de cette année pour nous, c'est la valorisation de Castelnau-le-Lez durant un week-end.
Amayaki siège sur le festival du film ethnographique. Qu'est-ce qui vous amène ici ?
Tout simplement, l'ethnologie, c'est aussi du patrimoine. On essaie d'apporter nos compétences en communication, nos compétences dans la promotion d'un événement. Mais la programmation nous intéresse aussi beaucoup, puisqu'on parle de la mémoire. Et la mémoire est vraiment une matière sur laquelle on tente de travailler tous les jours.
Mais vos capirades au custade de Madame Vala. Alors, le film ethnographique pour un néophyte, qu'est-ce qu'un film ethnographique ?
Film ethnographique est un vaste sujet, qu'il est parfois difficile à définir. En tout cas, c'est une appréhension de l'image et du savoir et de la recherche qui est bien plus sensible et bien plus approfondie qu'un simple film documentaire.
Ça peut être un document et une fiction aussi. On a vu deux types de films ici, des fictions et des documentaires.
Effectivement, le parti pris du film du festival Voir autrement le monde est de présenter, de proposer aux spectateurs un spectre très large de ce qu'on entend par cinéma ethnographique, puisque nous, à Ethnodoc, Gilles Rémy et moi-même, nous comptons proposer un panorama très divers de ce qu'est ce cinéma-là, qui effectivement flirte avec la fiction et parfois le film plus ethnographique plus classique ou bien encore des formes comme on a pu apprécier avec Irish Folk Furniture associant les nouvelles technologies au cinéma.
Quels sont les objectifs de cette association ?
Alors l'association que nous avons créée, Gilles Rémillet et moi-même, il y a 3 ans maintenant, était dans un premier temps la volonté de valoriser le cinéma ethnographique, puisque tous deux nous sommes issus de cette formation-là, et il se trouve qu'à Montpellier, il n'y avait pas de proposition de présentation de ce cinéma-là, et on trouvait ça intéressant. Et on a eu l'opportunité, par un partenariat avec le comité du film ethnographique de Paris, le Festival international Jean Rouch, de présenter un hors les murs de ce festival-là à partir des films sélectionnés déjà dans la sélection du festival.
Jean Rouch, justement, le titre du festival porte son nom. Qui est cet homme ?
Jean Rouch, c'est le maître du cinéma ethnographique, le maître de l'avant-garde du cinéma ethno qui nous a permis, qui nous a tous formés à cette nouvelle forme d'appréhension de la recherche ethnographique.
Je vous remercie bien d'avoir répondu à notre question. Anem encadena per ana mai al prigun de la programmation. On va aller rentrer au plus profond de la programmation de suite.
Pêcheur de sable, c'est un film de André Samoul Diarra qui a été fait au Mali et qui a été proposé à partir de 2012. Donc au Mali, les bozos sont réputés pour leur maîtrise de la pêche. Ils possèdent cette relation avec les esprits des eaux que les autres communautés n'ont pas. Et ils finissent par se diriger vers la capitale pour extraire le sable du fleuve et pour répondre aux besoins croissants des demandes de l'immobilier à Bamako. Donc nous venons d'entendre un petit extrait du film Pêcheur de sable. Et nous recevons sur notre plateau Jean-François Autin et Philippe Lourdoux. Bonjour.
Bonjour.
Et nous recevons aussi Gaëla du Bistrot des Ethnologues.
Bonjour.
On avait une petite question pour commencer sur la démarche ethnographique de l'auteur. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une démarche ethnographique? Combien de temps il est resté auprès de l'acteur principal, Gaëla?
André n'est pas un ethnologue, c'est un cinéaste avant tout, mais qui était vraiment intéressé par ce sujet. Et c'est vrai qu'il a fait un approfondissement ethnologique et social du personnage. Il a passé au moins un an avec Gaëla et avec toute son équipe, et les gens qui sont intéressés, qui sont concernés par le commerce du sable au bord du fleuve Niger à Bamako.
Mais un an avant de commencer à tourner, c'est ça?
Ah oui, un an avant de commencer à tourner, pour bien s'imprégner du sujet, parce qu'il était complètement étranger au sujet. Il n'a pas découvert par hasard, mais c'était un rapport qui le concernait, étant malien, et ayant un lien très fort avec le fleuve Niger. Donc il fallait absolument qu'il passe ce temps-là pour connaître son sujet, bien connaître ses personnages, aller chercher derrière eux ce qu'il peut y avoir de profond. Il ne fait pas du reportage journalistique, il fait du cinéma. Et tout le temps qu'il a passé avec Gaëla et avec les autres lui a permis de construire un sujet, de construire un scénario qui est devenu ce film très intéressant.
Vous avez dit tout à l'heure pendant le débat que Gaëla l'avait beaucoup influencé aussi... sur le film, par exemple, il le ramène dans son village natal avec toute sa famille. C'est
oui,
important.
C'est sûr qu'à travers Gaëla, il a trouvé la complémentarité pour justement écrire cette histoire. C'était l'histoire de Gaëla et Gaëla s'est complètement livré à lui. Il lui a donné ses sentiments, lui a raconté son histoire, sa vie, ses rêves, et que André a su complètement rendre dans le film justement parce qu'il y avait cette liaison intime.
D'accord. Et aujourd'hui, quelle est l'évolution des bozos?
Alors les bozos en général, je ne sais pas, moi je ne suis pas ethnologue.
Ils vont vers la ville.
Il y en a beaucoup qui sont venus vers la ville justement parce que dans le delta intérieur du Niger, qui est leur territoire, ils vivent principalement de la pêche et de l'eau. Donc les problèmes de fluctuation du niveau et du débit du Niger leur posent de gros problèmes. Donc évidemment, beaucoup ont migré vers Bamako et sans doute ailleurs. Mais il en reste encore, et on le voit dans le film, parce que pour eux, conserver leur identité, ça ne peut se faire que sur leur lieu d'existence, puisqu'il y a ce lien très fort avec les esprits de l'eau, et pour eux, l'eau, c'est le delta intérieur. Le fleuve arrive chez eux, d'ailleurs, ils ne portent pas le même nom à cet endroit-là, et leur avenir, il est difficile, comme partout, parce que voilà, il y a des problèmes environnementaux qui font qu'on ne peut plus bien vivre dans cette zone-là, enfin, comme autrefois.
Là, le Bistrot des Ethnologues a concocté des petites questions pour vous deux sur le rapport entre le cinéma et l'ethnologie. Donc en quoi le film ethnographique, puisqu'on est réunis autour de ce sujet-là, est-il intéressant pour le cinéma au sens large? Est-ce qu'il y a une influence qui s'opère et, on peut partir de ce film-là, par exemple, puisque dans cette programmation qu'on a à Ethnodoc, il y a, comme on l'a dit, pas seulement... du film du genre documentaire, mais aussi un mélange avec la fiction. Donc,
bon, on peut dire dans un sens que le film ethnographique est intéressant pour le cinéma parce qu'il a permis, en tout cas à travers Jean Rouch, entre autres, de filmer différemment. Dans la mesure où, si on remonte légèrement en arrière, on pourra savoir que Rouch est un peu à l'origine, je ne dis pas que c'est lui le père, mais il est un peu à l'origine de la Nouvelle Vague. Et ceci nous a été, si je puis dire, confirmé ou même asséné, puisque ça date de 1958, ces paroles-là, quand Rivette disait que Rouch est le moteur de la Nouvelle Vague, c'est celui qui est derrière, qui donne les idées, et que finalement, Godard a écrit un article dithyrambique sur Moins Noir, mais il s'est beaucoup inspiré de la manière dont Rouch avait filmé. Et donc, dans ce sens-là, le film, c'est pas le film ethnographique, parce que Rouch a commencé par le cinéma ethnographique, bien sûr, mais c'est le cinéma documentaire qui, par ses moyens faibles, au point de vue financier, au point de vue matériel, a réussi à créer, d'une certaine manière, c'est bizarre, c'est toujours comme ça, en fait, ça crée une nouvelle esthétique. D'accord. Et dans ce sens-là, par exemple, des gens comme Scorsese ont fait, je crois, Mean Street, avec une caméra qui se balade comme dans les films documentaires, mais il l'a fait exprès, il a pris l'esthétique du documentaire. Il n'a pas pris l'éthique, si je puis dire, du documentaire, mais il a pris l'esthétique du documentaire. Donc dans ce sens-là, ce type de cinéma a été important, semble-t-il, enfin, bon, pour le cinéma en général.
Moi, je ne pense pas que André, quand il a préparé son film, donc Amou Beya, le pêcheur de sable, pensait faire un film ethnographique. Parce que il fait partie d'un réseau de jeunes réalisateurs africains qui filment leur pays, qui filment leur société, qui filment leur culture, surtout avec un sens d'exprimer ce qui n'avait pas été encore montré. Alors bien sûr, c'est une démarche ethnographique, puisqu'il nous montre l'inconnu qu'on avait jusqu'à présent. Mais au départ, ils font d'abord du cinéma, et c'est en ça que je rejoins ce que vous avez dit, c'est que c'est du cinéma. Rouch faisait du cinéma, après c'était ethnographique. Et
une petite, sauf si on n'a pas le temps, mais est-ce que le film ethnographique nécessite un regard d'auteur, une écriture d'un auteur? Parce que c'est vrai que le film ethnographique, on a aussi, c'est aussi du matériau pour l'ethnologue, pour travailler, pour avoir tout simplement une connaissance plus fine des faits qui sont observés. Est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le film ethnographique un travail d'auteur ?
Je crois qu'il y a dans le film ethnographique, comme pour tous les films, qu'ils soient ethnographiques ou pas, il y en a qui sont portés par un regard d'auteur et d'autres non, ou moins, à degrés divers. Et il se fait qu'en ce qui concerne Rouch, il y a effectivement ce qu'on appelle maintenant un auteur qui résonne avec cette fameuse politique des auteurs et tout et tout. Mais on peut faire du film ethnographique, alors comme vous dites, où le matériau compte plus, puisque cinématographiquement, ça serait peut-être moins intéressant. Mais le matériau qui est donné, qui est imprimé, qui est sur l'image finalement, est d'une valeur inestimable. Donc rien que pour ça, ça marche. Maintenant, si en plus vous avez un cinéaste qui a le sens du cinéma, si je peux dire, eh bien alors c'est encore mieux. Tout le monde est content.
C'est un point de vue de réalisateur. Enfin, en effet, voilà. Le cinéma ethnographique peut être purement scientifique, mais la chance qu'on a aujourd'hui justement avec les nouvelles technologies et les formations qui sont faites autour du cinéma documentaire nous amène à avoir de vrais regards d'auteur. On vient d'en parler justement avec des écritures très pointues, très fortes justement, où il y a des choix cinématographiques, des dispositifs esthétiques qui font que c'est du cinéma d'auteur, bien sûr. Le film qu'on a vu a eu beaucoup de financement par des fonds spécifiques pour du cinéma d'auteur.
Merci à Jean-François Autain et Philippe Lourdeau pour notre bistrot des ethnologues. Tout de suite, on part en images pour l'exposition Des mots pour refuge.
Des mots pour refuge, une exposition photographique collective. Cette exposition vous est proposée par Federico Dessi et Émilie Luzian. Une exposition du photojournaliste Francesco Fantini à l'occasion du Festival de cinéma international ethnographique.
Donc nous sommes entourés de Federico qui est collaborateur de cette exposition photographique dont vous pouvez voir des images pour ceux qui sont dans la salle sur l'ordinateur. Et de Marie-Hénès Crépin et Claude Crépin qui sont mes parents et qui sont là pour quelques jours et donc qui ont été témoins de l'exposition cet après-midi. Donc moi j'ai trois questions à poser à Federico par rapport à cette expo collective et très touchante, voilà. La première, c'est pourquoi cette exposition ?
Cette exposition, les buts étaient surtout de donner un visage aux Syriens, surtout à la population civile qui a été la victime de cette guerre qui dure depuis plus de 3 ans. Quand on a conçu le projet en 2012, on s'est rendu compte que les médias internationaux, les médias français, européens, parlaient de la Syrie seulement en termes de guerre civile, de révolution, puis des révoltes armées. En tout cas, l'aspect politique et l'aspect militaire étaient toujours mis devant. Par contre, l'aspect humanitaire et la situation de la population civile n'étaient jamais valorisés. Donc on a voulu créer cette expo avec des photos de réfugiés syriens en Jordanie et au Liban, pour pouvoir montrer aux gens les vrais visages de la guerre, c'est-à-dire les souffrances des gens. Les souffrances des gens qui étaient des gens qui menaient une vie normale comme nous et qui du coup se sont retrouvés au milieu d'un conflit et qui ont dû fuir et aller habiter dans des tentes, dans des campements, dans des maisons en construction.
Ok, la deuxième question c'est quand ? Quand et combien de temps avez-vous fait ce reportage ?
Alors, les reportages, on l'a réalisé entre décembre 2012 et janvier 2013. Ça nous a pris, les travailleurs de terrain, environ un mois et demi. On a fait toute une série de rencontres et d'interviews avec une série de familles de réfugiés, 56 au total, entre le Liban et la Jordanie. Et puis, le photographe est venu 2 semaines nous accompagner pour prendre les photos. Et grâce à ça, après 3 mois de travail, on a créé cette exposition qui se compose d'une série de photographies en noir et blanc, et textes et témoignages des réfugiés, et aussi une bande-son avec les voix enregistrées des réfugiés qui nous racontent leur histoire.
Merci. Dernière question, peut-être. Comment avez-vous réalisé cette expo au niveau technique ?
Alors, au niveau technique, bon, du point de vue de la photographie, c'est Francesco Fantini, le photographe, qui a réalisé l'expo avec un appareil photographique digital. Et les photos sont en noir et blanc, comme j'ai déjà mentionné. Elles ont été imprimées avec un papier spécial qui met particulièrement en évidence les contrastes de l'image. Et, les interviews, on les a réalisées avec un simple enregistreur. Et puis, on a déroché les entretiens. Et grâce à ça, on a pu résumer les histoires des réfugiés dans des textes qui ont été imprimés sur des panneaux et qui ont été exposés dans l'exposition. Donc c'est des moyens assez simples. Nous avons autofinancé notre travail au début. On était 3. Et après, quand l'exposition était déjà prête, l'organisation Médecins du Monde a décidé de la financer et donc de payer les travaux et aussi les coûts d'impression et les frais de voyage et de réalisation. Et voilà, maintenant, on collabore avec Médecins du Monde pour diffuser l'expo en France. Elle a déjà été à Bordeaux, à Toulouse, à Montpellier. Elle devrait passer à Toulouse et puis Marseille et Paris en 2015.
Et elle est passée à l'étranger aussi déjà ?
Oui, elle est passée à l'étranger. Elle a été à Tunis, au Forum Social Mondial en 2013. Et puis en Italie, elle a été à Venise, Bari et Lecce, 2 villes du sud de l'Italie.
Ok, merci. Je me tourne vers les témoins de l'exposition, des témoins privilégiés, parce que c'est une exposition qui est vraiment magnifique, que je conseille à tout le monde d'aller voir. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner votre ressenti ?
Alors, moi, j'aime beaucoup la photo. J'aime beaucoup la photo en noir et blanc. Mais sur ces photos, c'est de la vie. C'est de la vie de gens qui ne sont pas très loin de chez nous, des familles, des enfants, qui avaient une vie, voilà, une vie comme vous et moi, pas très longtemps avant, et qui se sont retrouvés dans ces camps. Et dans ces camps, ben, je crois qu'il y a la vie, avec beaucoup de difficultés, mais on voit des rires d'enfants quand même. On voit des enfants inquiets. On voit des enfants qui sont presque déjà adultes et on voit de la bienveillance aussi entre générations.
Monsieur Crépin, voulez-vous rajouter quelque chose?
Ce qu'on découvre aussi, c'est que ces gens, malgré la difficulté de vivre dans ces camps, par le froid, beaucoup, il y a beaucoup de dénuement quand même, et ils gardent l'espoir de retourner chez eux. Quand? Mais ils gardent l'espoir, oui. Et les photos témoignent avec fidélité, parce que sont très nettes. Je ne sais pas la qualité du professionnel que le photographe avait, mais c'est un très grand professionnel.
Est-ce que vous pouvez juste nous dire l'expérience de ce professionnel de la photographie, la durée de son expérience?
Oui, Francesco Fantini, il a 30 ans d'expérience en tant que photojournaliste. Il a été dans plusieurs zones de conflit. Il a été en Afghanistan, notamment dans les années 80. Il a été au Kurdistan irakien dans les années 90. Et dans plusieurs pays d'Afrique, au Brésil, au Mozambique. Et c'est plus ou moins son 10e reportage, grand reportage à l'étranger, dans des pays en voie de développement ou dans des zones de conflit. Il a publié, je pense, 5 ou 6 livres de ses photographies et il a réalisé plusieurs expositions photographiques.
Ok, merci beaucoup à tous. Et on enchaîne avec le quiz.
Alors, tu as vu autrement le monde ?
Avez-vous bien vu ? Avez-vous bien entendu ?
Réponds à nos questions.
Des questions pièges, des questions faciles. Le quiz ethnodoc.
Alors, nous revoici sur notre plateau pour notre grand quiz. Nous sommes nombreux autour de la table. Gaëlle et moi partageons d'ailleurs la même chaise. Nous retrouvons Jean-François Autain, Laurent Pellet, Philippe Lourdoux et Gilles Remillet de l'association Ethnodoc. Bonjour à tous.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous êtes prêts pour notre grand quiz?
On y va.
Ça commence.
Quel est le film dont il est question dans l'extrait suivant?
Qu'est-ce que tu as compris du documentaire, Selim, toi qui as 9 ans?
C'est genre, il y a fait une fille et deux garçons. La fille tournait 3 tours autour d'un arbre blanc. Et les deux garçons tournaient 4 tours autour de l'arbre blanc. Et ils ont fait la chaîne autour de l'arbre.
Mémoire promise, Gilles Remillet, il y a une bonne réponse.
A dit quelque chose.
C'est quand même le programmateur qui a répondu. Hein.
Alors l'idée, c'est d'entendre la suite pour pouvoir rebondir après.
C'est les revenus, à mon avis, qui font ça. Et c'est pour se souvenir de ce qu'ils font ici.
Alors, il faut que tu nous précises qui sont les revenus et qu'est-ce qu'ils font ici.
Bah, les revenus, c'est des esclaves qui sont allés apprendre dans d'autres pays. J'ai entendu que certains ne reverront plus jamais l'Afrique. Et quelques autres... pouvaient revenir en Afrique pour revoir le continent. Revenir avec sa famille, genre.
Que pensez-vous de la démarche entreprise par les revenus dont parle Selim?
Ces revenus, ce sont les descendants des esclaves qui avaient quitté le Bénin. Ça au XVIIIe siècle et puis jusqu'à l'abolition de l'esclavage au milieu du XIXe, en 1848. Et ces descendants, ils ne sont que quelques-uns, hein, faut bien voir les choses. Ils ne sont pas très nombreux, c'est quelques dizaines qui reviennent au Bénin pour passer un peu de temps là-bas. Hein. Ils ne viennent pas s'installer définitivement. Hein. C'est un retour sur le passé de leur histoire familiale.
Quel est le film dont il est question dans l'extrait suivant?
To slavery, the greatest misunderstanding in the history of mankind.
Regardez,
Cobra Verde.
Cobra Verde, bravo, c'est une bonne réponse. Et c'est une réponse de Jean-François Autain. Alors, nous avons un point pour Gilles, un point pour Jean-François pour l'instant. Alors, les jeunes filles qu'on vient d'entendre chanter, que comprenez-vous de ces jeunes filles qui sont à la fois séduisantes, souriantes, ces jeunes filles de Dahomey pendant que les esclaves sont enchaînés juste à côté d'elles, qui chantent à la fin du film ?
Un message d'espoir.
Un message d'espoir.
Ouais, peut-être.
Oui, que malgré l'esclavage, en fin de compte, la vie continue, quoi. C'est, en fin de compte, là, Werner Herzog, le réalisateur, associe deux temps. Il y a le temps de l'esclavage, et quelque part, il y a le temps du présent, au moment où il filme. C'est-à-dire qu'il y a eu l'esclavage, mais le Bénin a continué, quoi. Et que, bon, voilà, maintenant, on en est dans une phase de réconciliation, de... Pas de pardon, mais il faut que ça se poursuive, quoi. Voilà, c'est ça qu'il a cherché à la fin de ce film.
Alors, Laurent Pellet, il n'a toujours pas de points, mais quand même, heureusement qu'il est là. Merci pour toutes ces informations.
Une petite histoire du cinéma.
Donc, autre question quiz, nous n'allons rien entendre pour celui-là. Donc, dans le film Petit à Petit, qui va être projeté ce soir au Festival Ethnodoc, le film Petit à Petit de Jean Rouche, la vache est-elle un croisement entre une hyène et un zèbre, une hyène et un hippopotame, ou un hippopotame et un zébu ?
Vous pouvez répéter la question.
Ça vous intrigue. Allez voir le film.
Moi, je dirais la troisième.
Moi, je dirais le zébu. Mais...
Il y avait peut-être dans la salle des réponses. Aïe, 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 aïe.
Un hippopotame et un zébu, on nous dit.
Une hyène et un hippopotame.
Ah.
Enfin, à vérifier, il me semble que c'est ça. Vous allez voir. J'ai fait de mémoire, mais...
C'est sûrement vrai.
Quel est le film dont il est question dans l'extrait suivant ?
Chaque jour... Des jeunes gens semblables au personnage.
Voilà, bravo Philippe Lourdeau.
Pour essayer d'entrer dans le monde moderne.
Alors, est-ce qu'on peut entendre peut-être l'extrait jusqu'au bout ?
Ils sont l'une des maladies des nouvelles villes africaines, la jeunesse sans emploi. Cette jeunesse, coincée entre la tradition et le machinisme, entre l'islam et l'alcool, n'a pas renoncé à ses croyances, mais se voue aux idoles modernes de la boxe et du cinéma. Pendant 6 mois, j'ai suivi un petit groupe de jeunes immigrés nigériens à Trècheville, faubourg d'Abidjan. Je leur ai proposé de faire un film où ils joueraient leur propre rôle, où ils auraient le droit de tout faire et de tout dire. C'est ainsi que nous avons improvisé ce film. L'un d'eux, Eddie Constantine, fut tellement fidèle à son personnage, Lamy Cushion, agent fédéral américain, qu'il fut, en cours de tournage, condamné à 3 mois de prison. Pour l'autre, Edward G. Robinson, le film devint alors le miroir où il se découvrait lui-même. L'ancien combattant d'Indochine, chassé par son père parce qu'il avait perdu la guerre. C'est lui le héros du film, je lui passe la parole.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous présente Trècheville.
Alors, Laurent Pellet, Philippe Lourdou, Jean-François Autain et Gilles Remier, il vous reste une dernière chance de gagner un point, de gagner notre quiz.
Mais là, vous allez être forcément gagnant.
Voilà, je pense qu'il y a matière pour tout le monde. Si vous étiez un noir de Jean Rouch, lequel seriez-vous ?
Edward G. Robinson.
Le vieil Yanaï.
De ? Dans quel film ?
Dans les funérailles du vieil Yanaï.
Évidemment. Eh bien, moi, je dirais 120 ans. Dongo dans Yenendi, les hommes qui font la pluie.
Pourquoi ?
Pourquoi ? C'est celui qui frappe fort, mais en fin de compte, pas si fort que ça. Non, non.
Il nous manque deux noirs.
Bah moi, l'hippopotame. Bah ouais, l'hippopotame, bien sûr.
L'hippopotame,
ouais, argumenté. Ouais, de bataille sur le grand fleuve, voilà. Ah, vous l'avez cherché.
Et notre dernier noir.
Alors, je me souviens plus son nom, mais moi, je dirais le chauffeur de VV Voyou.
D'Amour et Zika.
Non.
Non.
Non, 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 je me souviens plus. Talou, je crois.
Talou, oui.
Talou.
Voilà, parce que c'était trop rigolo comment il présentait, faisait de la pub pour Volkswagen à l'envers.
Et M. Poulet n'a pas été cité.
Non, c'est vrai.
Oui.
Ça aurait été le mien.
On peut choisir aussi le Yorougou.
Lequel ?
Le masque du renard pâle, le Yorougou.
Ouais, vous l'avez cherché.
Vous l'avez cherché, exactement.
Oui, mais nous cherchons encore.
Non, c'était le surnom de Jean Rouge, notamment, qu'on appelait le renard pâle.
Ah, c'est voilà. Ce petit animal qui passe la nuit sur des tables de divination. On met des cacahuètes et on s'en va. Mais les tables de divination, on les prépare d'avance et on pose des questions. Par exemple, est-ce qu'il va pleuvoir demain ?
Est-ce que ça sera un bon festival ?
Oui, voilà, par exemple. Est-ce que ça sera un beau festival aussi ? Bien. Et puis, on s'en va. Et le lendemain matin, leur petit animal, une sorte de fennec, en fait, finalement, va manger les cacahuètes. Et avec ses petites pattes, il laisse des traces sur la table de divination. Et ensuite, le lendemain matin, on vient interpréter les traces du renard pâle et on sait ce qu'il a dit.
Merci beaucoup. Ah, voilà. C'est vraiment un point gagnant.
C'était notre émission Voir autrement le monde en public à l'espace Claude Chabrol pour le festival du film ethnographique Jean Rouche hors les murs à Montpellier. Alors je voudrais, alors Mélanie voudrait rappeler.
Alors juste pour vous rappeler que l'expo photo a lieu à l'espace Martin Luther King de 14h à 18h du lundi au vendredi et peut-être le matin aussi, je sais pas. Également le matin, voilà. Donc vous êtes chanceux, allez-y nombreux, c'est vraiment exceptionnel. Allez, à bientôt, ciao.
Au revoir.
Au revoir. Tu mo one, one do no makadala bahati.